Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Bram FM. Vous êtes ici, top départ, il est 13h. Nous sommes le jeudi 25 janvier. Pour cette première partie d'émission, notre journaliste Thomas nous propose un portrait, celui de Laetitia Chapelle, la directrice du Conservatoire de Tulle. Diptyque Association également à l'honneur aujourd'hui. On retrouve Audrey et sa chronique dans la prochaine demi-heure. On va en savoir plus tous ensemble sur le pané. C'est un légume ancien. Également dans la prochaine demi-heure, Isabelle Vedrenne nous fera partager son coup de cœur musical du jour. Et je peux déjà vous dire qu'il s'agit d'une musique de film cultissime. À 13h30, vous entendrez bien sûr le journal régional proposé chaque jour par l'équipe du Graal. En deuxième partie d'émission, une autre légende, puisque nous allons parler d'un personnage de la littérature très 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 connu avec Sébastien Vidal. On en saura plus sur Dracula. La chronique en Limousin à suivre à 13h50 et on terminera bien sûr par la météo, toujours avec Isa. Vous êtes ici sur Bram FM en direct jusqu'à 14h. Et on commence cette émission évidemment avec le point info de la rédaction. Bonjour Thomas.
Bonjour Aymeric.
La préfecture prévient les Corréziens. Thomas, l'autoroute A20 sera impraticable aujourd'hui.
Les agriculteurs vont bloquer l'autoroute à partir de 14h pour une durée indéterminée. D'importantes perturbations de circulation sur l'autoroute A89 et dans toute l'agglomération de Brive en découleront. La préfecture conseille fortement d'éviter le secteur, de reporter les déplacements non nécessaires et de privilégier le télétravail. Des informations sur les mesures de gestion du trafic seront régulièrement communiquées sur les réseaux sociaux de la préfecture. Et d'après nos confrères de la montagne, d'autres actions de ce type devraient voir le jour en Corrèze demain aussi.
Lors des vœux de bonne année, le centre hospitalier de Tulle en a profité pour faire l'état des lieux.
Dans un premier temps, il est intéressant de constater que l'activité médicale est en augmentation. C'est en médecine ambulatoire. C'est un type de soin qui vous garantit de passer moins de 12 heures dans l'hôpital qu'on note la plus forte de ces augmentations. Mais dans le même temps, la situation financière reste très fragile. Le directeur de l'hôpital table sur un résultat prévisionnel 2023 déficitaire de plus de 4 millions d'euros. En cause, le recours à l'intérim pour remplacer les internes et l'augmentation des coûts de l'énergie. Le prix du gaz a été multiplié par 5, celui de l'électricité par 2,5, le prix de l'alimentaire aussi a augmenté et ça représente au total presque 2 millions d'euros en plus pour le centre hospitalier.
Ce qui n'est pas une modique somme. Ce soir, c'est l'ouverture du Festival du Bleu en hiver. Vous pourrez écouter gratuitement le groupe Hédredon Sensible à 18h30 au Magic Mirror. Et puis à 21h, Aquaserge sera sur la scène du Théâtre de Tulle. Également, Thomas, il doit rester encore quelques places sur le site du bleuenhiver.fr. Mais toi, Thomas, tu souhaitais nous parler d'un autre événement qui a lieu demain. C'est la nuit des conservatoires.
Et oui, et le Conservatoire de Tulle participe une nouvelle fois à cette 11e édition au programme de la soirée de demain soir. De la danse et de la musique, bien sûr. Vous pourrez entendre des ensembles de cordes, de guitares, des groupes de rock et aussi des orchestres, notamment l'orchestre symphonique. Je rappelle que ce sont majoritairement des enfants qui composent l'orchestre de symphonique de Tulle. Et puis, je l'avoue aussi, j'avais pas le matériel adéquat pour faire la prise de son. Mais bon, c'est comme ça en radio associative, on se débrouille avec ce qu'on a. Mais je vous promets, en vrai, ça rend bien mieux.
C'est noté, merci en tout cas à Thomas. Et vous pouvez retrouver l'ensemble du programme de la nuit des conservatoires en tapant dans le moteur de recherche « La nuit des conservatoires Tulle ».
Vous êtes ici sur Bram FM en direct jusqu'à 14h.
Merci beaucoup en tout cas Thomas. Thomas, on reste avec toi puisque tu étais en mode reporter ce matin. Tu es allé à la rencontre de Laetitia Chapelle. On reste au conservatoire. Laetitia Chapelle qui est la nouvelle directrice du conservatoire de Tulle. On écoute sans plus attendre votre conversation.
Bonjour Laetitia Chapelle, vous êtes directrice du conservatoire depuis octobre dernier. Vous êtes vous-même passée par ce conservatoire de Tulle. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir ici en tant que directrice?
Oui, alors effectivement, j'ai été élève du conservatoire de Tulle. J'y ai aussi enseigné la formation musicale, notamment il y a quelques années. Donc, après un passage en Haute-Corrèze, je suis ravie de revenir sur Tulle, au conservatoire particulièrement. J'ai retrouvé des enseignants effectivement que je connaissais, j'ai découvert une équipe qui s'est complétée, des enseignements qui se sont développés, diversifiés, donc pour moi c'est un vrai plaisir de participer à la vie culturelle tulliste et à l'enseignement.
Et j'imagine que vous arrivez aussi avec vos idées et votre vision du conservatoire. À quelles évolutions on peut s'attendre dans les mois ou les années qui viennent ?
Alors, le conservatoire montre déjà une grande variété en fait, de propositions en termes d'esthétique musicale, la musique classique, la musique traditionnelle, les musiques actuelles, le jazz. Donc, c'est une variété de styles qui est assez importante, avec la danse aussi contemporaine, la danse classique. Peut-être ce que l'on aimerait développer, c'est plus la transversalité, en fait, d'associer plus fréquemment. C'est déjà un petit peu le cas et on a des projets pour cette fin d'année, mais développer encore les liens entre la musique et la danse notamment. Voilà, on a une grande richesse de partenaires culturels sur Tulle avec la scène, la SMAC des Lendemains qui chantent, l'Empreinte, la Cité de l'Accordéon et des Patrimoines qui va ouvrir. Donc on va essayer d'étendre les liens entre tous ces acteurs et effectuer plus de passerelles pour nos élèves et peut-être encore davantage de croisements des publics. Voilà, avec un partenariat très important pour nous avec l'éducation nationale, puisqu'on a en place des classes CHAM, donc classes à horaires aménagés musique, des classes à horaires aménagés danse. Il y a toute une proposition d'éducation artistique et culturelle aussi auprès des écoles de Tulle. Un orchestre à l'école, en place à l'école Joliot-Curie. Donc ça, c'est quelque chose qui a vraiment de l'importance aussi pour le conservatoire, de travailler avec tout ce monde scolaire.
Et parmi vos cours de musiques actuelles, vous proposez maintenant d'apprendre la MAO, la musique assistée par ordinateur, ou bien encore le beatboxing par exemple. Ce sont des initiatives des professeurs du département des musiques actuelles, si j'ai bien compris. C'est une évolution que vous soutenez, vous aussi, à la direction.
Ben oui, je pense qu'un conservatoire, c'est important qu'il soit... qui soit dans l'air du temps. Donc les enseignements se diversifient, se développent, et puis c'est une vraie chance d'avoir une équipe dynamique qui apporte de nouveaux enseignements, effectivement, comme la MAO, le beatmaking. Je pense que nos élèves sont friands, en fait, de ces nouvelles possibilités qu'on doit encore faire découvrir. Voilà, donc on a une volonté d'accessibilité la plus large possible, et peut-être que ces nouvelles pratiques, justement, vont contribuer à faire participer de nouveaux élèves.
Donc on peut très bien imaginer des beatmakers et des rappeurs jouer lors des concerts du conservatoire, au même titre que l'orchestre symphonique, par exemple.
Oui, bien sûr, pourquoi pas, nous on en serait ravis. Voilà, c'est vraiment l'idée de tisser des liens le plus possible. Justement, on va avoir un lien avec le festival Oura au mois de février, puisqu'il est prévu que des élèves du conservatoire aient la chance de participer à une masterclass avec l'artiste Songe. Donc justement, l'atelier de beatmaking pourra être plus en lien avec une artiste et pourquoi pas développer des projets futurs.
Et je crois que vous allez aussi vous produire au Festival du Bleu en Hiver, c'est ça ?
Alors, on a la chance, effectivement, au conservatoire, que le Bleu en Hiver nous offre un temps de carte blanche. Ce sera au Magic Mirror, samedi 27 janvier, de midi à 13h. Donc, nous aurons un groupe de Rhythm and Blues, donc un groupe suivi au conservatoire par un de nos professeurs, Laurent Garcia. Le groupe s'appelle The Groovies. Et nous aurons des danseuses qui vont se produire sur la musique de ce groupe. Et ensuite, nous enchaînerons avec le Medium Band, donc une formation de jazz, voilà, accompagnée par Thierry Chaise. Donc c'est une vraie chance pour nos élèves, ados et plus confirmés, que de se produire dans des conditions professionnelles grâce au Bleu en Hiver et de s'ouvrir à un public de jazzman et pas que.
Le conservatoire, c'est un lieu par lequel on entre souvent quand on est enfant. On sait que ça peut avoir tendance à accentuer les inégalités. Comment vous faites pour y remédier ?
Alors, le conservatoire est effectivement accessible aux enfants à partir de 4 ans, avec tout ce qui est éveil musical, éveil danse. Ensuite, on accueille les élèves à tous âges, enfants, adolescents, et on peut effectivement commencer la musique aussi à l'âge adulte. Donc, il n'y a vraiment pas de restrictions. Le conservatoire est un lieu ouvert et que l'on espère le plus accessible possible, y compris sur la politique tarifaire, parce qu'il faut savoir qu'on pratique le quotient familial, donc les tarifs sont aussi adaptés et accessibles. Voilà, le conservatoire en fait a le but de former des musiciens amateurs pour leur plaisir de jouer simplement, de jouer ensemble, d'échanger, tout comme produire, selon les souhaits des élèves, une pré-professionnalisation. Voilà, donc il faut vraiment imaginer le conservatoire comme un établissement adapté aux projets et aux envies de chacun. Un conservatoire doit être vivant, la musique, la danse sont des choses qui se partagent, donc c'est pour ça que c'est important pour nous tout ce qui est pratique collective, tout ce qui va être lien avec les différents acteurs culturels du territoire. Le conservatoire aussi doit être à l'image culturelle de sa ville et un petit peu plus largement de son agglo.
Et enfin, quelle est la prochaine étape pour vous à la direction du conservatoire ?
Le conservatoire va être amené à réfléchir au prochain projet d'établissement, puisque les projets d'établissement ont une durée d'environ 6 à 7 ans. Donc on va être en période de renouvellement de projet. Donc ça va être l'occasion d'une concertation élargie avec les élus, les partenaires culturels, l'éducation nationale, les utilisateurs, le public extérieur, nos professeurs. Voilà, pour créer un projet pour les années à venir qui soit en adéquation avec nos possibilités et avec les souhaits du public sur le territoire.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Laetitia Chapelle. Je rappelle, vous êtes la nouvelle directrice du Conservatoire de Tulle.
Vous êtes ici en direct sur Bram FM.
Merci beaucoup Thomas pour cet entretien avec Laetitia Chapelle à propos du Conservatoire de Tulle. Je vous rappelle que vous pourrez aller écouter le Conservatoire au Magic Mirror à l'occasion du Festival du Bleu en Hiver. Ce sera samedi 27 janvier à partir de midi. Le Festival du Bleu en Hiver, justement, parlons-en, ça démarre aujourd'hui, hein, je vous le rappelle. Rendez-vous à 18h30 au Magic Mirror donc pour le concert de Édredon Sensible. Et justement, on va se faire plaisir, on va les écouter sur Bram FM avant de retrouver Audrey et sa chronique. À très vite.
La 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 la.
Ah ah, donc Sean Paul de Édredon Sensible. Eh bien, dites-moi, ça va bouger ce soir au Magic Mirror à Tulle. À 18h30, top départ pour le Festival du Bleu en hiver, je vous le rappelle. Vous êtes ici sur Bram FM, il est très exactement 1h15, 13h15.
Vous êtes ici en direct sur Bram FM.
Et aujourd'hui sur Bram FM, nous retrouvons Audrey de Diptyque Association. Et aujourd'hui avec toi Audrey, donc, on va parler d'un légume.
Alors oui, aujourd'hui on va parler d'un légume ancien qui ressemble de par sa forme à la carotte. Couleur blanc crème avec un petit goût de noisette et légèrement sucré, c'est le panais.
Mmh.
Donc le panais, il était très cultivé au Moyen-Âge pour nourrir la population, mais aussi comme plante fourragère. Il a été délaissé un petit peu au fur et à mesure des années, sauf en Grande-Bretagne et dans les pays nordiques. Et il retrouve une place dans nos assiettes avec l'engouement pour les légumes anciens de ces dernières décennies. Voilà. Donc au jardin, le panais, il apprécie les sols profonds, meubles, bien drainés et le soleil. On le sème en ligne, comme les carottes ou à la volée, de mars à juin pour le récolter environ 5 mois plus tard. Il peut se conserver, comme les carottes aussi, sur un lit de sable. Donc le panais, il est très riche en potassium, en magnésium, en fibres. Il contient aussi beaucoup de vitamines, comme les vitamines C et K.
D'accord, donc un légume qui a plein de qualités. Comment le choisit-on, ce panais, Audrey ?
Alors le panais, la pleine saison, c'est d'octobre à février. Donc la racine est plus ou moins longue selon la variété et on le choisit donc bien ferme, faut pas qu'il y ait de taches, il peut être légèrement brillant.
D'accord. Comment on le conserve le panais ?
Alors très simplement, il se conserve une semaine à peu près dans le bac à légumes du réfrigérateur.
Très bien, et je pense que ça va forcément intéresser nos auditeurs. Comment le consomme, ce panais ?
Alors le panais, comme plein d'autres légumes, on peut le consommer de la racine à ses fans. Donc la racine, c'est la partie blanche, et les fans, c'est les parties feuillues qu'il y a sur le dessus. On peut le consommer cru ou cuit, en salade râpée comme les carottes, en soupe, en purée, rôti. Et on peut effectivement utiliser ces fans dans une soupe, une omelette, une quiche ou ciseler très finement comme du persil pour agrémenter une salade. Une fois la racine pelée, on peut la citronner pour éviter qu'elle ne noircisse. Voilà.
Et alors aujourd'hui avec toi justement, on sait comment on le consomme maintenant. Tu vas nous parler de 3 recettes à base de panais.
Oui, tout à fait. Alors déjà, une première petite recette toute simple de panais rôti au miel et au thym. Donc pour ce faire, on va choisir 4 beaux panais que l'on va laver et peler. On les coupe en 4 ou 6 dans le sens de la longueur, suivant la grosseur. On va les déposer dans un plat à four qu'on recouvre d'un papier cuisson. Et on va préparer une petite marinade avec 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, une bonne cuillère à soupe de miel, une cuillère à café de thym, une pincée de sel et de poivre et un petit peu de piment d'Espelette. On badigeonne nos morceaux de panais avec le mélange et on les enfourne à 15-20 minutes à 200 degrés, tout dépendra de votre four. Et donc on peut servir ces panais rôtis une fois qu'ils ont pris une belle coloration, soit en accompagnement ou sur un petit houmous. Et là on peut se servir des fans pour parsemer un peu notre plat. Voilà.
Très bien.
Alors, la seconde recette, c'est un velouté de panais et noisettes. Donc, pour ce faire, on va prendre dans une casserole, on va faire revenir un oignon émincé dans un petit peu de matière grasse. On ajoute 3 panais qu'on aura taillés grossièrement en rondelles et une pomme de terre. On fait dorer le tout pendant quelques minutes. On va recouvrir d'eau ou de bouillon de légumes. On assaisonne toujours sel, poivre et on va laisser cuire pendant une vingtaine de minutes jusqu'à ce qu'il soit bien tendre. À la fin, on va ajouter 15 centilitres de crème liquide. Alors, ça peut être aussi de la crème végétale, la crème de noisette, par exemple. Et on va mixer le tout jusqu'à obtention d'une texture bien lisse. Et donc, ce velouté, on peut le servir avec justement un filet d'huile de noisette, quelques noisettes concassées qu'on aura préalablement torréfiées dans une poêle sèche. Et ça fait une superbe entrée.
Superbe entrée, puis un bon plat d'hiver également.
Voilà.
Et en dernière recette, Audrey, tu as choisi pour nous avec le panais un petit dessert plutôt sympa.
Oui, un petit dessert, un cake au panais façon carotte cake. Puisque en plus le panais a une saveur légèrement sucrée, donc ça se marie très bien aussi dans les desserts. Donc on va mélanger 125 ml d'huile neutre, 90 g de sucre et 2 œufs. On mélange légèrement. Dans un autre salaisier, on va mélanger des éléments secs, donc 150 g de farine, 4 gousses de cardamome pilé. Les cardamomes, c'est une espèce de petite gousse un peu vert amande. Donc, ça se marie très bien avec le pané. 4 g de levure chimique, 2 g de bicarbonate et une pincée de sel. Et là, on peut ajouter les zestes d'un citron. Et alors, si vous avez la chance, en ce moment, il y en a des fois dans les magasins bio, un citron bergamote. Mais avec la cardamome et le pané, ça va être un mélange vraiment délicieux. Donc on va verser peu à peu les ingrédients secs dans le mélange liquide et on veille à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux, donc que le mélange soit bien homogène. Et là, on va ajouter 200 g de pané râpé, qu'on a râpé comme des carottes, en fait, finement, et une poignée de noix concassées, environ 50 g. On mélange le tout, on va verser l'appareil dans un moule à cake, qu'on aura préalablement huilé et fariné pour que ce soit plus facile à démouler. Et on va enfourner ce cake une quarantaine de minutes à 170 degrés. Donc pour vérifier la cuisson, on plante le couteau. Si la lame ressort sèche, et bien c'est que c'est bon. On va laisser refroidir le cake avant de le démouler. Et soit on le déguste comme ça, soit on se prépare un petit glaçage pour plus de gourmandise. Et le petit glaçage, on va prendre du mascarpone, donc à peu près 125 g, qu'on va fouetter avec 40 g de sucre glace et le zeste d'un demi-citron. Pareil, on peut utiliser des zestes de citron bergamote. Donc on fouette le tout, on monte le tout en chantilly et on va ajouter quelques noix concassées. Et là, on nappe le cake avec ce glaçage et ben bravo, et on peut du coup déguster ce petit cake avec un thé Earl Grey à la bergamote pour appeler le
voilà, ça c'est le petit conseil d'Audrey supplémentaire. Parfait, merci à toi et on retrouve ta
avec
chronique
plaisir.
Et évidemment en podcast sur bramfm.com. À très bientôt Audrey,
bientôt.
Tu m'as mis en appétit je dois avouer hein. Allez salut.
Salut,
vous êtes ici en direct sur Bram FM.
Et oui, elle nous a mis en appétit, Audrey. Il est 13h22 en ce jeudi 25 janvier. Vous êtes bien à l'écoute de Bram FM. Il est temps de retrouver Isa et son coup de cœur musical du jour. Salut Isa.
Bonjour Aymeric.
Alors, c'est quoi le programme aujourd'hui? Film cultissime, paraît-il, là.
Il paraît. D'aucuns m'auraient dit que j'allais parler d'un compositeur culte aujourd'hui. Mon titre du jour portera sur un compositeur et pianiste argentin qui a signé beaucoup de musique de films. Il s'agit de Lalo Schifrin. Sa carrière prolifique s'étend sur plusieurs décennies et son œuvre variée témoigne de son génie musical sur une large palette. Parmi les musiques emblématiques de sa carrière, on trouve la bande originale de L'Inspecteur Harry, un film de Don Siegel qui incarne l'esprit pour le moins tumultueux du tout début même des années 70. En évoquant la collaboration avec Siegel, Schifrin révèle une complicité unique. Par exemple, le compositeur dit avoir choisi d'utiliser des voix de femmes en colère, des cris, sur des distorsions de guitare pour souligner la folie du personnage de Scorpio. À une époque marquée par la guerre du Vietnam, l'inspecteur Harry devient le reflet d'une société en proie à des contradictions profondes. Schifrin, habile à saisir l'essence des films qui l'accompagnent, insuffle à la musique une dualité captivante, un miroir sonore des tensions de son temps. Lalo Schifrin, initialement connu pour le thème mémorable de la série télévisée
Mission Impossible,
Absolutely, a étendu son influence bien au-delà de cette signature. Il commence sa carrière, pour la petite histoire, en utilisant beaucoup de sonorités latines teintées de son gros penchant quand même pour le bebop, mais sa polyvalence s'illustre dans sa capacité à naviguer entre différents genres musicaux. Du jazz au classique, en passant par le funk, le disco et le sérialisme. Alors le sérialisme, sauf erreur de ma part, c'est une technique musicale qui consiste à coller, c'est une sorte de collage d'éléments musicaux déjà existants. Ça, c'est pour se coucher un peu
d'accord,
moins bête ce soir.
Et ça se fait dans la peinture aussi, d'ailleurs.
Ouais,
là, ça se fait en musique.
Exactement.
Okay. C'est du sample.
En fait, c'est une sorte de métaphore que j'utilise. Schifrin a su adapter sa musique aux exigences quand même assez infinies du cinéma. Schifrin arrive dans le monde de la musique à son adolescence et pas avant, marqué par des études de piano avec des maîtres renommés. Son parcours le conduit à Paris, figurez-vous, grâce à une bourse, où il s'imprègne d'une multitude d'influences étrangères. De retour en Argentine, il devient un pionnier en fondant le premier groupe de jazz du pays. Lors de son installation à Hollywood en 64, Schifrin devient rapidement le compositeur de prédilection pour des films de renom tels que Cool Hand Luke, en français Luc la main froide, très bon film avec Paul Newman, dont j'ai oublié le nom du réalisateur, je crois que c'est Stuart Rosenberg, parce que j'ai vérifié juste avant de venir quand même.
Mais on te fait confiance, là pour le coup.
Voilà, mais j'ai bien fait de me vérifier, parce que je crois que j'aurais dit une bêtise. Il a fait Bullitt aussi, ce Lalo Schifrin, il a fait Hell in the Pacific et Dirty Harry, bien sûr, notre inspecteur Harry.
National.
À nos cœurs. Son œuvre ne se limite pas, cependant, au grand écran. Il contribue par exemple à la musique de concert, notamment pour des pièces et concertos divers et variés. Je vous propose, parce que sinon on est encore là demain, d'écouter aujourd'hui le thème principal du premier Inspecteur Harry, qui date, sauf erreur de ma part, encore une fois, de 1971, composé par Lalo Schifrin. Et c'est une spéciale dédicace à Sébastien Vidal, qui est ultra fan, je crois, de Clint Eastwood, que nous recevrons donc juste après. Sébastien Vidal, pas Clint Eastwood, hein, même si... Et donc c'est parti, on écoute.
On a fait une petite plongée dans les 70s aujourd'hui sur Bram FM. L'inspecteur Harry, voilà la BO du film composée par Lalo Schifrin, c'était le coup de cœur d'Isar. Il est 13h30, le moment de retrouver votre journal régional sur Bram FM. Juste après, nous retrouvons Sébastien Vidal qui est déjà dans les studios pour nous parler d'un certain Dada Cool. A tout de suite.
L'actualité en Limousin et Périgord, le journal des radios associatives libres. Sébastien Péjou.
Bonjour à tous. Jeudi 25 janvier 2024, la mobilisation des agriculteurs prend beaucoup d'ampleur en Limousin. L'A20 est bloquée depuis mardi après-midi au niveau du rond-point de la Croisière dans le nord de la Haute-Vienne. Blocage nuit et jour, ce qui perturbe aussi la circulation sur la RN145. Hier, des agriculteurs se sont aussi mobilisés à Aix-sur-Vienne, au carrefour RN21 D2000 et RD10 RD2000. Barrage filtrant au rond-point de Bourdela à Saint-Thierry-la-Perche. Les agriculteurs ont d'ailleurs recouvert un radar en adressant un message au président de la République et au Premier ministre. Nous prenons soin de votre matériel pour qu'il n'ait pas froid, alors prenez soin de nous. Aujourd'hui, de nouveaux points de blocage sont à prévoir en Haute-Vienne, notamment sur l'A20 au niveau de Saint-Hilaire-Bonneval et au Family Village à Limoges, sans compter diverses opérations sur la zone de la Valouane, dans le quartier Grosseret à Limoges, au rond-point de l'aéroport Bellegarde ou encore à Panazol. En Creuse, la circulation était fortement perturbée sur la RN145 avec un blocage entre les échangeurs 45, Jarnage et 48, Guéret-Centre. Plus de 250 tracteurs et autour de 600 personnes se sont retrouvées place Bogneau à Guéret hier après-midi, parmi lesquels des jeunes, des apprentis, des étudiants en filière agricole et des jeunes installés, inquiets pour leur avenir. C'est le cas de Maxime Turpina, 24 ans. Il est en GAEC sur un élevage de bovins avec ses parents depuis 2020 sur la commune d'Agen.
Ça fait peur pour les années à venir parce que forcément on fait ce métier, c'est pour arriver à pouvoir vivre, mais aujourd'hui c'est pas le cas, c'est compliqué pour tout le monde, les charges qui font que exploser et à côté de ça nos produits ne sont pas valorisés comme ils le doivent. Donc ça ne peut pas continuer comme ça. J'aurais pas eu de ferme, il aurait fallu partir de rien, je me serais pas lancé là-dedans, ça aurait été beaucoup trop compliqué. Quand on part de rien, qu'il faut acheter du matériel, un cheptel, du foncier, des bâtiments, c'est des investissements à 700-800 000 euros, pour un jeune c'est tout simplement pas possible quoi.
Propos recueillis par Elodie Bourriot de RPG. Enfin, en Corrèze, la FDSEA et les jeunes agriculteurs appellent à des actions dans le département, notamment un blocage de l'A20 au niveau de Brive. Les principaux syndicats, coordination rurale, FDSEA et JIA appellent les agriculteurs à rejoindre le mouvement. Même la Confédération paysanne rejoint cet appel particulièrement pour demander un revenu décent pour les paysans et l'arrêt des négociations des traités de libre-échange. Sans lien avec l'information précédente, une femme âgée de 80 ans a perdu la vie dans un accident sur la RN145 hier. Sa voiture a percuté un poids lourd au niveau de la commune de Dompierre-les-Églises. La conductrice de la voiture est décédée et le conducteur du camion a été transporté au CHU de Limoges dans un état grave. Visiblement, le non-respect d'un panneau stop serait à l'origine de l'accident. Un appartement a été détruit par un incendie à Tulle. À la mi-journée hier, le sinistre s'est déclenché dans un bâtiment situé à avenue Winston Churchill. Seul, au moment de l'incendie, un homme d'une quarantaine d'années a pu s'extraire du logement en sautant par la fenêtre. Blessé à la jambe et au bras, il a été conduit à l'hôpital. Une solution de relogement provisoire a été trouvée via le Centre communal d'action sociale. Pikachu va avoir son timbre, un timbre qui sortira de l'imprimerie Filaposte de Boulazac en Dordogne dans un mois. C'est le personnage star des Pokémon qui sera mis à l'honneur à l'occasion de l'anniversaire du jeu vidéo créé en 1996. 700 000 tirages seront en vente à partir du 28 février. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.
Vous êtes ici en direct sur Bram FM.
Vous êtes ici sur Bram FM, la suite à 13h50, vous entendrez la chronique en Limousin, une chronique dédiée aujourd'hui à la cité de l'accordéon et des patrimoines de Tulle, hein, qui ouvrira ses portes le 6 avril prochain. Dans l'immédiat, c'est un personnage légendaire de la littérature qui est à l'honneur, l'écrivain Sébastien Vidal est avec nous aujourd'hui. Pour en parler, il est 13h34.
Le monde a changé, les héros de polar aussi.
Nous lisons rarement, mais nous lisons avec une qualité que seules les vaches pratiquent, c'est-à-dire la faculté de ruminer.
J'ai l'impression que la littérature, elle nous encourage à nous libérer des déterminismes pour devenir qui on veut être.
Nous lisons plein de portes ouvertes.
Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci de me recevoir.
Avec grand plaisir.
Chères auditrices, chers auditeurs, gens des vallées et des talvegs, des puits et des collines, habitants des sucs et des hameaux, des villes ou des villages, voici sept mots sur ordonnance. Aujourd'hui, nous vous présentons un classique, Dracula de Bram Stoker, qui a quand même comme prénom le nom de votre radio favorite. Il était grand temps de parler de lui, Saperlipopette. Voici donc Dracula de Bram Stoker, traduit de l'anglais par Lucienne Molitor et disponible en poche aux éditions Babel et dans d'autres maisons d'édition de livres de poche.
Vous êtes intelligent, mon cher John. Vous raisonnez de façon très juste et vous avez l'esprit ouvert. Mais vous avez aussi des préjugés. Vous ne laissez pas vos yeux voir et vos oreilles entendre. Et tout ce qui ne fait pas partie de votre vie quotidienne, vous n'en tenez guère compte. Ne pensez-vous pas qu'il y a des choses qui, même si vous ne les comprenez pas, existent cependant, et que certains d'entre nous voient ce que d'autres ne voient pas ? Mais il y a des choses que les hommes ne peuvent percevoir parce qu'ils en connaissent ou pensent en connaître, d'autres qu'on leur a enseignées. Ah, c'est bien là le défaut de la science, elle voudrait tout expliquer. Et quand il lui est impossible d'expliquer, elle déclare qu'il n'y a rien à expliquer. Pourtant, nous voyons chaque jour et partout apparaître de nouvelles théories, ou plutôt qui se disent nouvelles. En vérité, elles sont vieilles et prétendent être jeunes.
Je ne vais pas, une fois n'est pas coutume, vous narrer le début de l'histoire. Elle est connue de toutes et tous. D'ailleurs, nombre de personnes ne connaissent Dracula que par le truchement de son adaptation cinématographique, que ce soit celle de John Badham, ou la plus connue et la plus réussie, celle de Francis Ford Coppola. Je pourrais également citer Le Dernier Voyage du Déméter, qui est brièvement passé sur les grands écrans l'été dernier, mais je ne l'ai pas vu et il se concentre sur une partie assez brève mais très impressionnante de Dracula de Bram Stoker. Il semblerait qu'il y ait un gros malentendu au sujet de ce roman qui a accédé au rang de mythe. Il est considéré comme un roman d'horreur, un truc à foutre les miquettes au fond des chaussettes, un truc à vous faire claquer des dents ou à faire claquer votre dentier dans son verre. C'est un roman d'horreur, mais pas uniquement. Et il ne s'agit pas de l'horreur à laquelle on pense systématiquement lorsqu'on entend prononcer ce mot. Il est de notoriété publique que Bram Stoker s'est probablement inspiré du roman de Polidori, le vampire, pour créer son histoire et son personnage phare. Juste inspiré, pas copié ou plagié. D'ailleurs, les deux hommes se connaissaient et ont même participé, si on donne du crédit à une histoire racontée par des témoins de la scène qui s'est déroulée sur les bords du lac Léman, il me semble, à une sorte de défi qui consistait à écrire une histoire dans le genre fantastique, défi auquel a aussi participé Mary Shelley, l'auteur de Frankenstein. Pour vous donner une idée, c'est comme si on apprenait qu'il y a quelques années, Stephen King, James Herbert et Graham Masterton s'étaient livrés au même jeu quelque part au bord d'un lac du Maine. Nous aurions été quelques régiments à vouloir absolument lire le résultat de leur passe-temps. Mais je digresse un peu. Avec Dracula, l'auteur produit un roman d'horreur, mais aussi policier. Sa structure, très calibrée et organisée, basée sur la lecture des journaux personnels des protagonistes, ce qui dit quelque chose des gens de l'époque et de la classe sociale dans laquelle ils évoluent, ainsi que sur de nombreux échanges épistolaires et également des télégrammes, messages divers, notes, propose de remonter lentement et méticuleusement une piste noire et glacée jusqu'à la source du mal. Cela est remarquablement fait, et à travers les écrits de ces personnages, Stoker glisse pas mal d'indications sur leur caractère, leur vécu et leur éducation. Il faut aussi prendre en compte l'étude des preuves et des faits par les protagonistes, notamment Van Helsing, mais aussi le docteur Seward. De plus, les interminables temps ou déplacements de l'époque, bateaux, trains à vapeur, chariots, déplacements à cheval, augmentent le suspense en jouant sur notre impatience. Le coup de maître, c'est d'avoir imbriqué une histoire d'amour, Jonathan et Mina, dans l'enquête et la quête, les liant définitivement pour en faire à la fois le fil rouge et l'enjeu. En outre, comme en témoigne l'extrait qui a été lu par Emmerich au début de cette chronique, il questionne sérieusement les croyances de l'époque, la religion et la science. C'est assez risqué et subversif dans l'Angleterre puritaine ou puritain de la fin du XIXe siècle, même si on y observe un retour en force du tropisme pour l'occulte. L'autre coup de génie de Stoker, c'est de mettre ces mots-là dans la bouche d'un éminent scientifique, le professeur Van Helsing, homme à la réputation inattaquable. Mieux encore, dans un certain nombre de pages, la charge érotique distillée par l'écriture et les descriptions de l'auteur se répand comme un éclair libidineux qui embrase les flambeaux de la concupiscence. Il faut relire le passage, par exemple, où les trois jeunes femmes tournent autour de Jonathan Harker, dans le château du comte, avec leurs lèvres ourlées et rouges, qui s'approchent de son cou offert. Un conseil, allez chercher un bol de glaçons et videz-le dans votre slip ou votre culotte. Voilà, ça c'est fait. J'imagine de quelle manière la bourgeoisie très cucérée de l'époque a accueilli ces passages. Mais Stoker va plus loin. Il questionne les fondements même de la religion. Il sous-entend, par la nature même de Dracula, qui est un mort-vivant, ou un non-mort, comme le décrit Van Helsing, que tout ce qui nous a été enseigné est contestable et peut-être même faux. Qu'entre l'enfer et le paradis, il existerait un no man's land hideux où erreraient des choses innommables. Qu'il n'y a rien après la mort, que Dieu lui-même n'est qu'une fable pour rassurer les trouillards, car il ne saurait tolérer l'existence d'un tel monstre. Après la mort, telle qu'on se la façonne, il n'y aurait que terreur et désespoir. Si jamais il y a un moment où doit fonctionner le sentiment d'horreur, c'est bien à cet endroit. Ce point de pression, comme dirait le maître Stephen King. Mais bien sûr, Stoker est conscient des risques qu'il prend. Après tout, l'Inquisition, avec un I majuscule, n'est pas si loin. Il prend soin de ménager une porte de sortie honorable et religieuse à son histoire. Il en fait même le but et la motivation des quatre hommes qui s'engagent à la poursuite du conte. Et c'est bien précisément à ce moment de la narration que le roman passe de l'horreur policier au roman d'aventure, avant de revenir à l'horreur, en apothéose. Il faut reconnaître que l'auteur sait écrire, sans fioriture, avec efficacité. Ce qui sait le mieux au genre de l'horreur et de l'épouvante. Pas la peine de faire des détours, il faut asséner un coup direct au menton. Comme cette scène vraiment flippante et éprouvante, durant laquelle on regarde le comte évoluer comme un lézard sur les murs extérieurs de son château. L'image stupéfiante est rivée là, au fond du cerveau. Je ne saurais que trop vous conseiller de lire ou relire ce Dracula à l'aune de cette nouvelle année. Vous pourriez bien voir, sous les éclats multicolores des décorations des fêtes de fin d'année encore en place, quelques ombres inquiétantes glisser avec fugacité dans votre champ de vision.
Merci Sébastien, un classique qu'on a envie de découvrir ou de redécouvrir, c'est selon Dracula de Bram Stoker, c'était la chronique du jour de Sébastien Vidal, à retrouver évidemment en podcast sur bramfm.com. Merci Sébastien.
Avec plaisir.
Vous êtes ici en direct sur Bram FM.
Petite pause musicale maintenant sur Bram FM, il est très exactement 13h43, je vous propose d'écouter le titre « Émotion noire » de Hanzou, qui sera présente à la médiathèque de Tulle le mercredi 14 février à l'occasion du festival Oura, qui se déroulera donc à Tulle et qui vous est proposé par Des Lendemains qui chantent. Allons-y pour Hanzou et nous retrouvons la chronique en Limousin juste après sur Bram FM.
Vie passe trop vite mais t'en existe pas. En soirée ça se boit des lits, fais genre ça t'excite pas. Je riche pour repartir ce qui se passe. Dans ma tête c'est noir, je comprends ce qui se casse. Il y a ceux qui me lâchent et certains pas. J'y ferai genre ça m'atteint pas. Je me suis toujours sorti comme ça pour que même la vie elle m'éteint pas. Mélancolie en devenir alcoolique, étranglé par le colis, je peux pas crier ma colère. Alors pour bien me la coller, je fume du shit bien collant. J'écris un rap bien calé en espérant me la couler. Putain c'est la galère, les émotions sont noires. Peut-être qu'avec un gros salaire, je pourrais m'acheter mes joies. Putain, c'est la galère, les émotions sont noires. Peut-être qu'avec un gros salaire, je pourrais m'acheter mes joies.
Battre le temps pour rester dans le tempo. Bâtard, tu sais très bien que moi je t'aime pas. Je crame dans les blêmes, je sais pas nager. J'avancerai pas plus, je ne vais plus rager. J'ai laissé tomber, j'ai laissé couler. Je me suis lassé de vous qui autour courez. Une montre autour du cou qui à la fin du tour. Faudra surmonter les coups à la fin de tout. Ce sera la fin du temps, ce sera la fin de toi. Aiguille sur la tempe, lapin au fond du trou. Putain c'est la galère, les émotions sont noires. Peut-être qu'avec un gros salaire, je pourrais m'acheter mes joies. Putain c'est la galère, les émotions sont noires. Peut-être qu'avec un gros salaire, je pourrais m'acheter mes joies. Mais t'en existe pas, on sent et ça se boit des litres. Fais genre ça t'excite pas. Chérie, je pourrais pas dire ce qui se passe. Dans ma tête, c'est non, je comprends ce qui se casse. Sous mon chapeau, je cache mes armes. C'est mon cerveau qui crée mes larmes. C'est toutes mes pensées qui me mutilent. Je noie dans le stup, même si c'était inutile. Mon corps tout entier en mutinerie. Je vais faire éclater toute la minuterie. Ce soir, c'est pas une soirée, c'est une tuerie. Le temps, je vais te faire ta fête, t'arrêter à tout prix. Putain, c'est la galère, les émotions sont noires.
Étoile noire, c'est un titre de la rappeuse Anzu, qui est originaire de Clermont-Ferrand, donc pas très loin de chez nous. Et figurez-vous qu'elle sera très bientôt présente à Tulle, à la médiathèque intercommunale Éric Rohmer, à l'occasion du festival Oura, qui débute, je vous le rappelle, le 13 février. Anzu qui animera un atelier d'écriture, il faut le savoir, à la médiathèque Éric Rohmer, à partir de 15h. Vous pouvez déjà vous inscrire, hein, si vous le souhaitez. Et juste après, ce sera le concert d'Anzu, ce sera à 17h30. N'hésitez pas d'ailleurs à regarder toute la programmation sur le site des Lendemains qui chantent, qui organise cet événement. Vous êtes ici sur WAM FM, bienvenue si vous venez à l'instant de nous rejoindre. On est un tout petit peu en avance, il est 13h48. Nous retrouvons tout de suite la chronique en Limousin. À Tulle, la cité de l'accordéon et des patrimoines ouvrira ses portes, je vous le rappelle, le 6 avril prochain. Un projet qui a mis du temps à éclore, mais qui permettra aux visiteurs de mieux appréhender les histoires ouvrières de la ville aux sept collines, excusez-moi. Olivier Sérac nous embarque dans la visite de l'une de ces salles de ce nouveau musée dans la chronique 5 minutes en Limousin aujourd'hui.
La chronique quotidienne du groupement des radios associatives libres en Nouvelle-Aquitaine, le rendez-vous de ces territoires et ses acteurs. Le Graal, producteur de proximité en Nouvelle-Aquitaine.
Près de 10 ans après les premières études, ça y est, la cité de l'accordéon et des patrimoines de Tulle va enfin pouvoir ouvrir ses portes. Rendez-vous le 6 avril afin de pouvoir découvrir les nouveaux contours de l'ancienne Banque de France, en plein cœur du quartier d'Utrecht à Tulle. Un espace 3 en 1 puisque 3 collections des musées de Tulle sont réunies au sein de cette cité de l'accordéon et des patrimoines. Vous trouverez la collection de dentelles et du célèbre Point de Tulle, la collection de la manufacture d'armes, mais aussi, bien sûr, les collections dédiées à l'accordéon. Et parmi ces pièces, l'ancienne boutique de Martin Caïla, l'un des chantres de la culture musicale auvergnate à Paris.
Elle était dans nos réserves, dans l'ancien bâtiment Paul Accordéon. Elle était remontée provisoirement, en attente d'être un jour dans son lieu définitif.
Autant dire que pour Karine Lhomme, directrice de la cité de l'accordéon et des patrimoines, cette ancienne boutique parisienne est...
un lieu incontournable de la vie musicale. Elle a fonctionné de 1938 à 2000. Et puis, en parallèle, dans la vitrine qui est juste derrière vous, on a mis en lumière le personnage lui-même, Martin Caïla, à travers son costume, ses instruments. C'est vraiment la vitrine qui est dédiée au musicien Martin Caïla.
Mais ce n'est pas tout, puisque près de 700 objets sont ici réunis, dont une centaine sont interrogeables via une sorte d'audioguide. L'enjeu est clair, faire que le visiteur soit acteur de sa découverte du lieu et de ses histoires.
Là, on peut enfin découvrir cette richesse, cette collection instrumentale unique qui a été acquise maintenant depuis plus de 30 ans par la ville. On est un musée référence vraiment sur cet instrument. On est la seule collection publique Musée de France dédiée à l'accordéon. En plus, elle a des points forts qui est que vraiment elle propose des instruments qui s'échelonnent des origines de l'instrument tout début du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc on traverse toute l'histoire de cet instrument qui en 100 ans a connu une évolution incroyable, passant des salons de la bourgeoisie à l'univers populaire et au bal que l'on connaît. Tout ça, on peut le découvrir avec bien sûr les instruments qui sont présentés, mais aussi des images, des photographies, d'archives, voilà, qu'on fait revivre à l'intérieur des vitrines grâce à ces projections. Tout ça, on peut aussi l'écouter. Vraiment, j'engage les visiteurs à faire ce parcours sonore parce que l'expérience, elle est complète que quand on a les deux, à la fois les objets et le son.
Et pour que cette expérience soit totale, l'ancienne salle des coffres de la Banque de France propose aux visiteurs de s'emparer des instruments. Deux accordéons, l'un diatonique, l'autre chromatique, sont à la disposition des visiteurs. Et pour mieux vous accompagner, Frédéric Valli, professeur d'accordéon au Conservatoire de Tulle, a enregistré quelques vidéos pour mieux guider les visiteurs.
Le premier rudiment de l'instrument, comment le tenir, jouer quelques notes à la main droite et à la main gauche. Et ce qu'on a voulu à la fin, c'est de jouer ensemble, que l'accordoniste diatonique et l'accordoniste chromatique puissent éventuellement jouer ensemble. Donc on peut très bien faire un duo à la fin. L'idée, c'était d'avoir une position. Donc il y avait une position. Voilà, on est sur une position avec deux notes à la main gauche, deux notes à la main droite, qui fonctionnent ensemble. Voilà, et ces notes-là se marient aussi bien avec les notes proposées par Rémi en diatonique. Et ce qui fait que, voilà ce que je vous disais, on peut aussi très bien jouer en duo à la fin pour avoir deux harmonies différentes et pouvoir créer une petite mélodie.
Pour l'instant, seul le rez-de-chaussée dédié à l'accordéon a été dévoilé à la presse cette semaine. Mais pour le maire de Tulle, Bernard Combes, cette cité de l'accordéon et des patrimoines est un véritable hommage à l'histoire ouvrière de Tulle et ses cultures.
Ce qui me fait plaisir, c'est de penser à toutes celles et tous ceux qui ont participé par leur esprit manufacturier, par des années de travail dans les manufactures d'accordéon, dans les ateliers de dentelle, dans les ateliers de fabrication de l'accordéon. C'est toutes ces personnes qui ont contribué à ces savoir-faire et qui aujourd'hui vont avoir une résonance particulière à nos émotions et à notre mémoire. Donc en fait, vous avez là un concentré d'âmes qui se sont livrées à un long, long, long travail au quotidien, parfois dans la difficulté et la souffrance. Et aujourd'hui, on voit le résultat ici pour toutes celles et tous ceux qui vont pouvoir en profiter de manière émouvante, parce que je pense que c'est le mot qu'il faut retenir.
Entre l'achat de l'immeuble et les travaux, l'ensemble du projet a coûté près de 8,5 millions d'euros. La cité de l'accordéon et des patrimoines sera ouverte tous les jours du mercredi au dimanche à partir du 6 avril, les lundis et mardis étant réservés aux scolaires et aux groupes. Comptez 7 euros plein tarif pour pouvoir la visiter. Olivier Serac, RGB pour le Graal.
La chronique quotidienne du groupement des radios associatives libres en Nouvelle-Aquitaine est à retrouver sur legraal.info. Le Graal, producteur de proximité en Nouvelle-Aquitaine.
Vous êtes ici en direct sur Bram FM.
Vous êtes ici, la fin, on s'en approche, il est 13h53, il est temps de retrouver notre chère Miss Météo pour nous parler couleurs du ciel et température.
Le brouillard a tout mis dans son sac de canton, le brouillard a tout pris autour de ma maison.
Il s'agit d'un choix de Ève. Alors, tu me laisses nous en parler?
Alors, normalement, ça veut dire que c'est une devinette, ça me dit quelque chose.
C'est un poème.
Mais il n'y a rien qui me vient. Et toi, Sébastien, tu l'as ou pas?
Non.
Mais Sébastien et toi, vous n'êtes pas allés à l'école, c'est pas possible. C'est Maurice Carême. C'est Maurice Carême, le brouillard.
Mais ouais, mais Sébastien et moi, on...
Vous n'êtes pas allé à l'école.
On dit nos âges.
Mais enfin.
Le mythique Maurice Carême. Mais c'est pas la plus connue de Maurice Carême.
Non. Mais quand c'est chanté, c'est déroutant.
Ouais, c'est déroutant. Là, en plus, avec un piano, c'est encore plus déroutant.
Parce que quand on était petit, effectivement, t'as dû apprendre des poèmes de Maurice Carême aussi.
C'est pas mon meilleur souvenir.
Moi non plus, mais j'en ai pas un mauvais, vraiment très mauvais souvenir. Par contre, on l'apprenait, on le disait d'une manière assez mécanique. Ouais.
Alors moi j'ai un très mauvais souvenir de cette chanson, pour la simple et bonne raison que c'était la chanson que mon père nous chantait pour nous réveiller le matin. Et là on pourrait dire « Ah c'est sympa et tout », mais non en fait. Parce que quel que soit le réveil que vous avez, il reste associé au fait de devoir sortir du sommeil. Ouais. Et on a beau choisir la plus belle chanson du monde, au bout d'un moment on peut
mais
plus l'entendre.
N'empêche néanmoins, l'intention était là, de la part de ton père.
Ouais.
Sinon, si vous voulez bien, je vous fais la météo, mais sinon...
Ah bah écoute, avec plaisir, mais c'était...
Je préfère qu'on parle de Maurice Carême.
En tout cas, c'est elle qui nous dit « Oh, j'ai pas de culture, tu parles, là, nous a plombé, là. »
Bah voilà.
Ah ouais.
Bah non, mais c'est Maurice Carême, c'est pas... là, on parle d'une culture écolière.
Ah, c'est pas Aragon, c'est sûr, mais bon. Non, mais il y a des jolies choses pour les enfants, en plus, c'est plutôt adapté, c'est bien.
Ouais. Bon, alors c'était le brouillard, du coup je suppose qu'il y aura du brouillard demain, Isa.
Alors si moi, tu regardes bien, mon petit Aymeric, dans le ciel, là, que vois-tu?
Mais du bleu.
Voilà. Et bah demain, je suis désolée de casser l'ambiance, en même temps...
Ah donc ça n'a rien à voir avec le bleu que je suis en train de regarder là?
Non,
alors. Ah,
ouais, demain, vendredi 26 janvier, parce que j'ai bien dit saut de yeux encore, je sais que demain, je sais quel jour on est, ce sera le retour de la grisaille sur l'ensemble de la Corrèze. Je m'explique. Des poterons minés, la couleur du ciel donnera le la de la journée, c'est-à-dire des nuages et des bancs de brouillard. Toujours de la douceur quand même, il fera de 4 degrés à 9, rien que le matin du nord au sud du département. Quant à l'après-midi, toujours exempte de soleil, pas de précipitation quand même au programme, ce qui est déjà pas mal. Et du côté des températures, on attend 10 degrés à Ussel, Égletton et Trégnac, 12 à Uzère, Stuhlbrive et Beaulieu, et une maximale de 13 degrés à Argentat. Donc ok, il fera gris, mais il fera doux.
Ah, moi j'ai une question sociologique à vous poser. Quand vous entendez banc de brouillard, vous pensez à un banc sur lequel on s'assoit ou plutôt à un banc de poisson?
Ni l'un ni l'autre personnellement, mais après je sais pas. Sébastien,
plutôt un banc de poisson.
Ton sentiment là-dessus, vraiment tu vois des poissons quand on dit banc de brouillard?
Bah ça me fait plus penser à un banc de poisson qu'un banc pour s'asseoir.
D'accord, Aymeric, toi c'est plutôt...
Alors perso, moi ça me fait penser, rien à voir avec banc de poisson, tout ça, mais au film de Carpenter dont on parlait en micro. Là.
Fog.
Voilà, le banc de brouillard maléfique qui s'abat sur la ville.
Fog, le brouillard qui tue.
Mais parce qu'il faut dire quand même que tout à l'heure, quand tu as fait la lecture du Bram Stoker de Dracula, que Sébastien Vidal a présenté, que le titre musical qui t'accompagnait, c'était The Fog.
Absolument.
Ton choix musical.
Exactement. Et la composition de John Carpenter, qui était à la fois
réalisateur
et compositeur de la plupart de ses films.
Comme Clint Eastwood, ce qui fait le lien avec la chronique d'Isabelle.
De la Loche.
Absolument.
Moi, ouais, c'était très cinéphile aujourd'hui, sans spécialement se concerter.
Et pour
une espèce de choses comme ça qui circulent entre nous.
Oui, Maurice Carême, c'était très cinématographique aussi, non?
Qu'est-ce qui nous arrive?
Et demain, pour faire la continuité, l'intro musicale de la météo, ça sera Nuit et brouillard de Jean Ferrat.
On pourrait, sauf que je ne serai pas là.
C'est moi qui fais la météo demain en plus.
Bon, mais avis à l'intéressé.
Je verrai ce que je vais faire.
En tout cas, merci Isa, merci également à Eve, merci à Sébastien pour cette superbe chronique sur Dracula. À réécouter, je le rappelle, en podcast sur bramfm.com. Merci également à Thomas pour ce reportage, ce portrait de Laetitia Chapelle, la directrice du Conservatoire de Tulle. Et enfin, merci à vous, auditeurs et auditrices de Bram FM, d'être à l'écoute, d'être fidèles à cette émission. Vous êtes ici, à retrouver en podcast également. On se retrouve demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Yes, light it up, burn it up, hotter than hot, hotter than hot. Take us from the cup, it don't quit till we melt the snow up the mountain top.